Chapitre 29. Après 3 heures de travail à la bibliothèque, Juna et Marco repartent par le sas et traversent le couloir souterrain pour aller déjeuner. Au centre pénitentiaire de Kumla, pour des raisons de sécurité, les déplacements des prisonniers sont limités, de même que les possibilités de contact entre eux. Dans la mesure du possible, les détenus gèrent eux-mêmes leurs allées et venues, section par section, afin d'empêcher que d'éventuels soulèvements se propagent entre différentes unités. Des disputes peuvent éclater, mais elles se résolvent sur place. Ils arrivent à l'intersection en T, où Salim et les mecs de Malmö attendent déjà que la porte s'ouvre. Imre appuie de nouveau sur le bouton. Salim regarde la vieille peinture murale datant des années 80, une plage de sable pâle où se prélasse une jeune femme en bikini. Pendant que vous lavez vos 20 tonnes de slip et de draps, moi je bosse le programme du lycée, dit Marco avec un sourire. En guise de réponse, Salim écrit Fuck you avec un petit bout de crayon sur le dos de la femme. Après le déjeuner, les détenus disposent d'une heure de promenade dans la cour. C'est le seul moment où ils sortent à l'air libre, où ils peuvent sentir le vent sur leur visage, suivre un papillon du regard en été, ou briser du talon la glace d'une flaque d'eau en hiver. Quand Juna arrive dehors, il voit Salim adossé à la clôture métallique, seul. La cour de promenade n'est pas très grande. Les murs des bâtiments en ferment deux côtés, les deux autres sont grillagés. À l'extérieur se trouve le haut mur, et au-delà, la clôture électrique. On n'aperçoit même pas les cimes des arbres derrière le mur, seulement le ciel gris. Deux surveillants contemplent les prisonniers éparpillés autour du terrain de volet et sur l'allée de gravier. La plupart fument, tandis que certains groupes discutent entre eux. En général, Juna fait un jogging, mais aujourd'hui il se promène avec Marco et veille à rester à proximité de Salim sans pour autant s'approcher de lui. Un puissant ventilateur rugit à l'intérieur de l'usine Procordia dans la zone industrielle voisine. Juna et Marco passent devant la serre vide en plastique éraillé. Rainer se place du côté du filet de volley-ball et se tourne vers une des caméras de surveillance. Les autres membres de son gang discutent, serrés les uns contre les autres. Juna sait qu'il peut y avoir du grabuge, et il a déjà dit à Marco d'aller chercher les gardiens s'il se passe quelque chose. Quand ils croisent le rayon de soleil qui parvient à franchir le mur, leurs ombres s'étendent jusqu'à Salim Rajen, qui se tient toujours immobile contre le grillage. Marco s'arrête et allume une cigarette. Juna poursuit vers Salim et s'apprête à le dépasser quand celui-ci fait un pas en avant vers lui. « Pourquoi tu me rendrais service ?» demande-t-il en fixant Juna d'un air sérieux. « Parce que tu seras mon débiteur quand je reviendrai, » lui répond Juna calmement. « Pourquoi je te ferai confiance ?»« T'es pas obligé, » tranche Juna. Et il passe son chemin. Rolf, de la Brødrenes Kapett, arrive droit sur eux. Rainer fait rebondir le ballon contre le sol et lance quelques mots aux deux hommes qui ont agressé Rajen pendant le petit déjeuner. « Je sais qui tu es, Juna Lina, » dit Salim. « D'accord, » répond Juna en s'arrêtant. « Ils ont été durs avec toi au tribunal. Je dois te demander de garder tes distances. Je refuse les alliances, je n'en ferai pas avec toi ni avec qui que ce soit. » « Désolé, » murmure Salim, sans pour autant se déplacer. Les deux hommes de main de Rainer commencent à traîner les pieds sur l'allée de gravier pour soulever la poussière sur leur passage. Marco jette un regard stressé vers la droite et s'approche de Juna. Rainer passe le ballon à Rolf, il le lui renvoie aussitôt. Le nuage de poussière dans l'allée progresse lentement, éclairé par le soleil. Rainer tient le ballon des deux mains et marche en direction de Salim. Rainer est sur le point d'attaquer, murmure Juna. Il se retourne, voit que les deux de la Brødrenes Kapett avancent, dissimulant des armes près du corps. À force de coups de pied, ils soulèvent davantage de poussière. Ils blaguent entre eux, se bousculent, s'approchent. Quelques autres membres du gang ont bloqué Marco. Le prenant par les épaules, ils le maintiennent et font semblant de plaisanter. Les Albanais de Malmö fument en compagnie des surveillants. La poussière se densifie dans la cour et les gardiens commencent à comprendre que quelque chose se trame. Juna fait deux pas vers Rolf, les mains tendues, tentant de le calmer. « Pose ton arme, » dit-il. Rolf tient un tournevis aiguisé, une arme essentiellement destinée à poignarder, ce qui limite le nombre d'attaques possibles. Juna présume qu'il tentera de le frapper directement au cou ou, avec un large mouvement circulaire, de l'atteindre sous le bras gauche. Rainer tient toujours le ballon d'une main tout en s'approchant de Salim, qui lui tourne le dos. Dans son autre main, il essaie de cacher une lame de couteau. Juna recule pour obliger Rolf à le suivre. Marco se dégage, appelle les surveillants et reçoit un coup violent dans le torse. Salim entend l'appel et se retourne. Le ballon l'atteint en pleine figure et lui fait faire un pas en arrière. Il parvient néanmoins à saisir le bras de Rainer qui tient le couteau et à éloigner la lame de son corps, mais il trébuche et tombe contre la clôture. C'est une attaque bien plus agressive et dangereuse que ce que Juna avait imaginé. Rolf murmure quelque chose et frappe avec le tournevis. Juna esquive, repousse le bras qui tient l'arme et saisit la manche de son blouson par derrière. De toutes ses forces, il envoie son coude gauche vers l'aisselle de son agresseur. Le coup de Juna est tellement violent qu'il brise net l'humérus. Rolf vacille et émet un râle de douleur. L'arme tombe par terre et son bras pend, retenu par les muscles et les ligaments. Un des hommes dans l'allée de gravier se précipite sur Juna avec une matraque improvisée, de gros écrous enfilés sur un long boulon. Juna essaie de parer le coup, mais il est trop tard. L'engin artisanal l'atteint dans le dos et il sent une brûlure à l'omoplate. Il tombe en avant sur les genoux et se remet debout en toussant. Il a tout juste le temps de voir venir le coup suivant et d'écarter la tête. L'arme effleure son crâne. Il agrippe le bras qui tient la matraque et profite du mouvement pour tirer son adversaire vers lui. Il le fait tomber en le passant par-dessus sa hanche, se baisse et pose un genou sur sa poitrine. Titubant toujours, l'air hébété, Rolf se tient l'épaule et meugle de douleur. Salim est à terre. Il s'appuie sur sa main en sang pour se relever. Marco arrive en courant, s'arrête hors d'haleine devant Juna et essuie sa bouche pleine de sang. « Je prends ça sur moi, » dit-il. « Tu n'es pas obligé, » répond Juna vivement. « Ça me va, » souffle Marco. « Tu vas partir en Perm. Il faut que tu vois Valeria. » La poussière est en train de se poser quand Juna s'avance jusqu'à Salim. Rainer jette le couteau et recule. Les mecs de Malmö s'approchent de l'autre côté. Les surveillants, affolés, parlent dans leur talkie-walkie. Juna entraîne Salim droit vers les mecs de Malmö, qui ouvrent les rangs pour les faire passer, puis les referment derrière eux. Marco s'approche de l'homme que Juna a neutralisé et le fait tomber sur le dos à nouveau. Il est en train de le frapper au visage quand les gardiens se ruent sur lui avec des matraques à ressort. Marco s'effondre et se roule en boule. Il essaie de se protéger le visage et la nuque des coups qui pleuvent, mais les gardiens continuent de le frapper jusqu'à ce que son corps devienne tout flasque.
« Je suis désolé pour tout ça. » déclare Salim à Juna.
Dis-le à Marco.
Je le lui dirai.
Salim saigne au bras et à la main, mais il ne regarde même pas ses blessures.
Rainer est imprévisible, dit Juna.
Je ne sais pas ce qu'il a contre toi, mais tu ferais mieux de te tenir à l'écart. Des surveillants arrivent avec des civières.
Tu devais faire quoi déjà pendant ta perme?
Demande Salim.
Chercher du boulot. Où ça?
À la Rikskrim, répond Juna. Salim éclate de rire, mais redevient sérieux quand son regard tombe sur Rainer près du filet de volley-ball.
J'ai l'impression que tu crois toujours à ta perme, dit soudain Salim.
Marco prend tout ça sur lui.
Je pourrais te demander de faire quelque chose pour moi.
Si j'ai le temps. Salim se frotte le nez et s'approche de Juna.
J'ai absolument besoin de faire parvenir un message à ma femme, dit-il à voix basse.
C'est quoi le message?
Elle doit passer un coup de fil et demander à Mira.
C'est tout?
Il faut que tu ailles chez elle. Elle habite en banlieue de Stockholm, à Barnhagen, au 10, Knästavägen.
Et pourquoi elle m'ouvrirait la porte?
Tu lui diras que tu as un message de la part de Dag van Halak.
C'est moi, ça veut dire le voisin, répond-il avec un bref sourire.
Parisa est une fille timide, mais si tu dis que tu as un message de Dag van Halak, elle te fera entrer. Et quand tu seras entré, elle va te proposer du thé que tu vas accepter. Mais pour transmettre le message, tu attendras qu'elle ait servi aussi des olives et du pain.